Bonjour Emmanuel Faber.
Bonjour.
Ex-PDG de Danone, d'où vous avez été écarté l'an dernier. Désormais président de ISSB, on va en dire un mot tout à l'heure. Vous avez souvent été qualifié de patron du CAC 40 parmi les plus sociaux, peut-être même le plus social du CAC 40. Et voici votre dernier livre, Ouvrir une voie, paru aux éditions Paulsen. Alors vous y racontez comment votre identité s'est construite avec la montagne et l'escalade en particulier, et quelles leçons vous en tirez quand il s'agit de diriger une grande entreprise ou d'entrevoir l'avenir de la planète. Alors l'escalade, écrivez-vous, il y a le sens de l'itinéraire, le crux, c'est le passage le plus difficile mais incontournable, le rapport au temps également avec l'escalade. En quoi est-ce que cette escalade, cette passion, a contribué à façonner votre style de management ?
Ah, écoutez, je pense que elle a contribué à façonner ma personnalité, mon itinéraire, mes engagements, mon identité à proprement parler, et donc forcément mon style de management.
Quelles valeurs ?
L'engagement, la fidélité, l'équilibre, l'audace, plein de choses.
Et le sens de l'itinéraire. Je voudrais insister là-dessus parce que même en salle, alors que vous n'aviez jamais grimpé la voie en question, vous avez avalé les prises comme si vous les connaissiez à l'avance. Cet instinct de l'anticipation à la montagne comme au bureau, j'allais dire, ça vient d'où ?
En escalade et en alpinisme, c'est absolument nécessaire. Il y a deux notions dans cet engagement et dans ce temps. Il y a un temps très court, c'est le temps des quelques mouvements qui suivent, les quelques mètres qui suivent avant de remettre un autre point de protection. Et puis il y a le temps long, c'est-à-dire l'itinéraire de la voie, les 200, 500, 1000 mètres qu'il faut franchir. Et il faut avoir en permanence ce rapport entre le temps court et le temps long. Et je pense que c'est sans doute une des choses auxquelles j'ai été très très attentif dans les problématiques qu'on a essayé de gérer, rentrer... le développement durable, l'agriculture régénératrice, la santé des sols, la santé des collaborateurs, la participation de tous. Tout ça parce qu'au-delà de l'efficacité dans l'instant, il y a la question de la résilience. Une cordée, c'est quelque chose qui se constitue et qui travaille dans le temps.
Et la confiance en l'autre également.
Et absolument, une confiance qui est indéfectible. Quand on a fait un nœud d'encordement et qu'on le vérifie d'ailleurs mutuellement avant de partir, on est encordé à l'autre et il y a cette nécessité impérieuse quand on avance en tête, on progresse en tête, de sentir l'attention de l'autre et au passage du crux dont on parlait tout à l'heure, le fait que cette personne est là, c'est une vie qu'on confie et qu'on se confie mutuellement. Ouais. Donc, cette notion assez indéfectible de fidélité, elle est fondamentale dans mes engagements. Ouais.
Alors, c'est en Corse, au-dessus du refuge de la Blanche, vers la Rocca Bianca, où vous êtes allé grimper la dernière fois avec votre frère. C'est donc dans ce paysage que vous avez commencé à imaginer ce livre. Avec quelle ambition ?
En fait, je n'avais pas particulièrement envie d'écrire, mais c'est Charlie Buffet, qui est le patron des éditions Guérin, qui m'a contacté. Alors, les éditions Guérin, ça ne dit pas grand-chose à quelqu'un qui n'est pas de la montagne, mais ce sont des petits livres rouges qui ont édité tous les alpinistes de légende, à commencer par les Français, Maurice Herzog, Ray Buffat, Lachenal et les autres, qui sont allés au premier 8000 jamais réalisé, l'Annapurna, en 1950. Et moi, je lisais ça dans les étagères de mon grand-père. Donc, c'est difficile quand on est alpiniste et grimpeur de refuser une sollicitation de Guérin. Et c'est un livre qu'on a imaginé ensemble avec Charlie dans ce refuge, en effet, à l'automne, avec l'idée pour moi, du coup, de poser un récit un peu en traversée entre deux ascensions. Il y a eu 25 ans avec cette entreprise et tout ce qu'on a fait dans l'entreprise et autour. Et puis, avant d'imaginer la suite, l'envie de se poser, de faire une traversée littéraire et qui a donné naissance à ce livre.
Et c'est aussi dans cette montagne que votre frère Dominique, rattrapé par la maladie, a choisi de faire son dernier voyage. Vous en parlez avec beaucoup de pudeur dans votre livre, votre frère que vous citez en exemple, devant les jeunes diplômés des hautes écoles de commerce. Quel exemple est-il pour une future génération de managers et d'entrepreneurs ?
Ouais, ça c'est un sujet évidemment assez particulier pour moi. Mon frère était très proche de moi en âge. On a beaucoup grimpé ensemble, fait de la montagne. Les 400 coups, et puis il a été rattrapé par la maladie mentale. Sa vie s'est terminée à 44 ans. Et pour moi, il a été le contact permanent avec une réalité dont mon métier m'éloignait quand j'étais avec les gouvernements, avec d'autres patronnes ou patrons, avec les syndicats, etc., dans le monde entier. On a vite fait de se prendre pour quelqu'un d'important, alors qu'en fait on est tous importants. Et lui me rappelait en permanence à cette réalité-là. Il a été proche de la Terre. Sa maladie l'a amené aussi à prendre du temps. Il m'envoyait simplement parfois juste le bruit d'une source ou d'une fontaine sur un message téléphonique. Et ce rappel permanent à cette réalité, pour moi, il est fondamental. Et j'invite tous celles et ceux, et c'est ce que j'ai voulu faire à HEC, à trouver ce petit frère ou cette petite sœur là qui leur parle secrètement et qui est sans doute un levier d'engagement pour aller vers qui on est vraiment appelé à être.
Le pouvoir, dites-vous, mon métier, vous venez de le dire, m'a éloigné de la réalité. En haut d'une montagne, face à cet éternel que vous racontez, que vous décrivez tout au long de ces pages, est-ce que la vie professionnelle ne ressemble pas finalement à une grande farce ?
Alors, elle pourrait, et en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de venir régénérer le sens que je voulais lui donner régulièrement dans la grimpe, dans la montagne, parce que justement, c'est tout sauf une farce. Grimper, quand on se ment à soi-même, quand on est dans la farce ou dans l'illusion, on tombe. La sanction est immédiate. Donc, c'est toute cette question de réunification même du sens de ce qu'on fait, de qui on est profondément, vivant, et auquel j'ai eu, soif vraiment d'aller me ressourcer régulièrement, plusieurs fois par semaine et au moins une fois par mois, aller dans les falaises et dans les montagnes pour ça. Je crois au contraire que la vie professionnelle peut avoir un sens profond. Je crois même qu'il est essentiel pour l'avenir, pour le climat, pour continuer à vivre ensemble, que nous donnions un sens profond pour tous ceux qui en ont la possibilité, un sens qui est autre que simplement l'argent nécessaire que nous fournit ce travail.
Alors justement, à propos de la répartition des richesses, vous rappelez dans votre livre qu'en 2020, les dirigeants de ce qui correspond au CAC 40 mondial, ces dirigeants ont gagné chacun 300 fois plus que le salaire moyen de leurs propres salariés, et ça malgré une vague de licenciements sans précédent. Vous y voyez une bombe à retardement planétaire. Qui s'en préoccupe parmi vos ex-collègues du CAC 40?
Il faudrait leur demander, mais...
Vous étiez à leur contact aussi?
Bien sûr, je pense que chacun a là-dessus une posture personnelle, chacun fait ses choix et ses réglages. Moi, simplement, je suis clair sur le fait que je n'arrive pas à justifier dans une perspective tout simplement de sens et de vivre ensemble de tels écarts. C'est pas possible.
Il y a 3 ans, je précise aussi qu'à la tête de Danone, vous aviez demandé à ce qu'on vous retire la retraite chapeau. Comment est-ce que ça a été perçu, cette retraite chapeau, je précise, ça vous permet d'avoir une retraite à plusieurs centaines de milliers d'euros et voire plus. Comment est-ce que ça a été perçu par les autres actionnaires?
Alors, par les actionnaires, très bien. Je pense que beaucoup d'actionnaires, d'ailleurs, en ce moment, se rendent compte qu'il est important de réguler la rémunération des dirigeantes et des dirigeants d'entreprise. Par les membres du conseil d'administration, c'est toujours plus délicat parce qu'il y a aussi un phénomène où on est membre d'un conseil d'administration mais on est patron ou patronne par ailleurs, et d'une certaine façon l'entre-soi fait que l'indépendance réputée des membres des conseils d'administration ne l'est pas toujours en réalité. Donc quand on commence à toucher à l'argent, on commence à toucher à des choses et des peurs en fait, très intimes pour les gens. On les caractérise de dirigeants, mais c'est des gens qui sont comme vous et moi et qui ont leurs propres peurs. Donc chacun a les siennes. Moi, j'ai surtout celle d'être trop lourdement chargé en montagne. On prend juste ce dont il y a besoin. On prend pas le surplus, même quand il est sur la table.
Ouvrir une voie, pour reprendre le titre de votre livre, et je vous cite là. Trouver le passage vers de nouveaux modèles économiques. La voie est là, elle est évidente, écrivez-vous, mais elle terrorise ceux qui ont trop à perdre. La gloire, le pouvoir, l'argent. Il nous reste 10 ans pour emprunter cette voie. Sentez-vous aujourd'hui une ébauche de prise de conscience collective parmi les dirigeants d'entreprise?
Oui, très très clairement, oui. Ça va pas assez vite, mais ça bouge partout, et c'est une des raisons qui m'ont fait accepter à l'occasion de la COP26 lorsque les autorités de régulation des marchés financiers mondiaux ont annoncé la création d'un conseil qui va édicter des normes en matière climatique et sociale pour les marchés financiers, qui s'appelle donc en anglais l'ISSB. On m'a proposé de prendre la présidence de cet organisme qui est en train de se mettre en place. Je pense que c'est fondamental si on veut resynchroniser la façon dont la finance doit accompagner cette transition climatique et sociale dont les entreprises ont besoin et dont nous avons, nous, besoin humainement pour continuer à vivre ensemble dans les années qui viennent. Donc, mon engagement de ce point de vue-là ne sera pas tant d'ouvrir une voie que d'équiper cette voie future pour que tout le monde puisse y aller sans les risques que j'ai pris moi.
Et vous avez, je crois, 4 ans pour le faire, la fin
absolument,
de votre mandat.
Absolument, c'est ce qu'on va essayer de faire. Oui.
Les derniers mots de votre livre, j'ai confiance, il y a donc encore de l'espoir. Emmanuel Faber, je donne le titre de votre livre, votre dernier livre, Ouvrir une voie, donc paru aux éditions Paulsen. Et merci d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Bonne journée.
Merci à vous.